Come on, deuxième heure de ce 1121e Sweet Home Chicago. On vient d'entendre Jeff Beck, The Pump, extrait de l'album There and Back en 1980. Jeff Beck qui est avec Steve Ray Vaughan et Jimi Hendrix, quelques-unes des influences d'un certain Mr. Harderly qui est l'invité de cette deuxième heure. Mr. Harderly qu'on va découvrir à travers cet album Mean Blues. Voici White Flag. C'est ainsi que démarre l'album de Mr. Harderly qui s'appelle Mean Blues. On en écoutera bien sûr d'autres extraits. Voici cette interview enregistrée il y a quelques jours.
Je suis au téléphone avec Mr. Harderly qui vient de sortir un superbe album qui s'appelle Mean Blues. Mr. Harderly, bonjour.
Salut Marc.
Très heureux de te recevoir dans Sweet Home Chicago. Je crois que c'est la première fois, malgré que tu n'aies pas démarré tout à fait avant-hier, dans le blues, je crois. Hein.
Ah oui, c'est ça. C'est le blues, ça fait une longue histoire de 30 ans en ce qui me concerne. Mais bon, je sais que c'est la première fois qu'on passe dans ton émission, en tout cas en direct, en interview. Mais ça fait depuis un moment qu'on est en contact pour les chroniques d'albums et tout ça. Donc voilà, en tout cas, je te remercie de pouvoir nous faire un petit peu de promotion pour cet album.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On va essayer de bien faire. Et justement, moi, je te propose une chose, c'est par rapport aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, peut-être qu'il en existe quelques-uns, de te présenter, de nous parler de ces 25 ou 30 années de carrière. Comment est-ce que tu as démarré? Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite du blues? Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ton enfance, ton adolescence? Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves acteur de cette musique?
Ah, alors écoute, je vais essayer de faire court parce que je suis assez bavard. En fait, j'ai commencé la guitare à l'âge de 15 ans, et donc c'était dans les années 80. Et à cette période-là, j'avais les cheveux très très longs, et puis c'était vraiment le hard rock qui marchait pas mal, enfin ce qu'on appelait le hard rock à l'époque, qui marchait pas mal en France. Donc j'ai commencé par ça. Et puis c'est vrai que fin des années 90, début des années 90, avec l'arrivée de Nirvana et ce type de groupe alternatif, le hard rock a été moins populaire. Et je me suis rendu compte qu'il fallait commencer à changer de look parce qu'effectivement, même si tu jouais du blues et que tu avais les cheveux longs, on te cataloguait comme un hard rocker. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que j'aimais, entre guillemets, dans le hard rock, que ce soit Gary Moore ou Santana ou AC/DC, ou enfin, je peux citer plein de groupes, Pink Floyd, qui n'est pas du hard rock, mais en fait, tout ça avait des bases de blues. Oui. Et qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au travers du hard rock que je pouvais écouter à l'époque, c'était vraiment le blues qui était le fil conducteur, le fil rouge de tout ce que je pouvais aimer. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien me frotter à ça. Et c'est vrai qu'au début des années 90, j'ai monté mon premier groupe de blues qui s'appelait Ça va mal finir, cette histoire blues band.
Ouais, je me souviens de ça. Voilà. Tu m'avais envoyé un disque à l'époque, effectivement.
Et tu vois, ça fait un moment qu'on est en contact, hein,
Marc.
Oui.
Et puis, alors tu citais quelques groupes de hard rock des années 70-80. Il y en a un que tu n'as pas cité, évidemment, il y en a des dizaines, mais à qui tu voues particulièrement une affection, c'est Deep Purple, non?
Oui, carrément. Deep Purple, ils ont commencé dans les années 60. Alors après, bon, il y a les Stones, les Beatles, bien sûr, mais c'est vrai que Deep Purple, j'adore vraiment leur carrière. Et c'est vrai que dans la continuité de Deep Purple, j'adore aussi ce qu'a fait Richie Blackmore dans Rainbow. J'adore aussi David Coverdale, qui a joué à la fin de Deep Purple et qui a monté Whitesnake après. Donc tout ce courant blues rock des années 70, début des années 80. J'avoue que voilà, je suis assez fan, et puis je pense que le son du Mr. Harderly est très très imprégné des années 70 avec ce son.
Complètement. Et puis, alors côté hard rock, on vient de développer, mais côté blues rock, moi je pense de temps en temps, en t'écoutant, un certain Stevie Ray Vaughan, non?
Je peux pas le renier. Tu sais, quand j'ai commencé à faire du blues au début des années 90, j'ai envie de dire sans que ce soit péjoratif, mais je devais aller voir Stevie Ray en 90 pour sa venue en France. Il est mort malheureusement, je crois, au mois d'août. Il était passé en septembre-octobre. Et du coup, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais en fait, j'ai fait moi un peu mon fond de commerce avec Stevie Ray. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je jouais vraiment des tas de morceaux de Stevie Ray, de Hendrix, de Johnny Winter. Et c'est vrai, c'est ce qui m'a permis de me mettre le pied à l'étrier dans les années 90 au niveau du blues et de commencer à me faire connaître dans ce style-là. C'est un peu grâce à Stevie Ray, où on n'était pas nombreux en France à l'époque à oser reprendre Stevie Ray. Il y avait Dominique Dazin, qui malheureusement nous a quittés, mais qui lui était aussi sur ce créneau-là. Il y avait Zoran, qui était plus Hendrixien que Stevie Ray. Et puis voilà, il y avait nous qui reprenions pas mal. Et c'est vrai qu'on l'a vraiment, vraiment beaucoup tourné à cette époque-là. C'était pas un tribute, mais voilà, c'était ma marque de fabrique à l'époque. Et même si je m'en suis un peu éloigné aujourd'hui parce que j'ai digéré le style, voilà, ça reste quand même une de mes grosses, grosses influences. Et je peux pas le nier, t'as bien remarqué.
Ouais. Mr. Harderly, voilà, pour être tout à fait complet sur les influences, il y a un autre guitariste que Hendrix ou Vaughan ou Winter qui t'a vraiment inspiré, c'est Jeff Beck. On peut quand même le citer aussi.
Carrément. Ouais. Jeff Beck, moi je l'ai vu plusieurs fois en concert, et c'est vrai que pour moi, Jeff Beck, il fait partie des génies vivants, enfin des génies qui sont encore vivants de nos jours, au même titre que Pat Metheny, tu vois, dans un autre style, dans le jazz.
Voilà.
Moi je l'ai vu vraiment sur scène, et j'ai vu ses partages, j'ai relevé des plans à lui, j'ai travaillé, et ce mec-là, c'est un alien, quoi. Après, il y a plein de guitaristes qui ont du talent. Santana, Steve Vai, Satriani. Enfin, on peut pas tous les citer. Van Halen, ils sont bourrés de talent. Mais pour moi, Jeff Beck, c'est un extraterrestre, quoi. Il est vraiment génial, ce mec. Il fait des choses qui sont improbables et voilà. Je veux pas t'en dire plus. Voilà, il faut vraiment les citer.
Alors, tous ces guitaristes-là qui t'ont influencé, effectivement, qui sont un petit peu entrés dans les veines de tes doigts pour guider tes mouvements sur le manche de la guitare. Et puis également peut-être aussi une patte personnelle. Je ne sais pas si on peut. Est-ce qu'on peut qualifier ton style de Mr. Harderly style maintenant, après ces 25 ou 30 années d'expérience scénique surtout,
hein? Écoute, c'est pas à moi de le dire, parce que ce serait un peu prétentieux. Mais je pense, comme beaucoup de guitaristes, de ma génération, à l'époque, on s'est inspiré des vinyles qu'on avait, des cassettes qu'on pouvait acheter. On a travaillé différents styles. Bon, on a pu citer Jeff Beck, Johnny Winter, Hendrix, Vaughan, voilà. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu vieillis, t'as moins le temps de travailler les plans des autres. Tu te concentres sur ta carrière à toi, de sortir tes albums. Et du coup, tu digères quelque part un peu le style des autres pour en faire ton propre style. Mais je pense que c'est ce qu'on a tous fait. Mais j'ai cité par exemple les Rolling Stones qui ont pillé le répertoire de Muddy Waters, de Robert Johnson, de, enfin on pouvait en citer plein, et qui du coup ont fait leur style aussi à eux, comme Stevie Ray a pillé Hendrix pour en faire son style à lui, exact. Comme Johnny Winter. Enfin, voilà, donc je pense que c'est un parcours, enfin il me semble, hein, c'est un parcours logique quand tu es artiste, musicien, de t'inspirer de grands noms de musiciens de ton instrument, ouais. Et puis après de digérer ce style, après dire qu'il y a un style Harderly, un son Harderly, je l'espère, mais ce serait prétentieux en tout cas pour moi de l'affirmer, c'est pas à moi de le dire, c'est à tous les gens qui vont m'écouter et qui vont pouvoir en parler, quoi.
Très bien, au fil de toutes ces années, on va évoquer tout à l'heure le tout nouvel album qui s'appelle Mean Blues bien sûr, mais j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur le passé, notamment par rapport à ton expérience de guitariste de première partie. T'es arrivé d'ouvrir pour des artistes de grand talent, des gens avec qui tu as partagé la scène. On peut noter Fred Chapelier, on peut noter Status Quo, Bernard Allison, Van Wilkes, les Georgia Satellite, les Commitments. Je crois aussi que tu as côtoyé ZZ Top de près, non ?
Alors, là, il y a plein de trucs. Là, effectivement, tu reprends la bio. Alors, effectivement, il y a des gens avec qui j'ai pu jouer. Il y a des gens avec qui on s'est retrouvés sur la même affiche.
C'est ça.
Par exemple, on parle de ZZ Top, Status Quo. C'était en 2003 au Festival de Montreux où on a joué, effectivement, dans le même festival qu'eux. Alors, sachant que, je parle en 2003, tu vois, on était encore... Il y a presque 20 ans, tu vois, donc on était encore beaucoup plus jeunes. Et du coup, nous, on ouvrait le festival. Oui, effectivement, on a ouvert pour eux, mais on ouvrait à 14-15 heures.
Voilà. Mais la question derrière, c'était, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger, de discuter un petit peu, ou c'était juste, voilà, les uns après les autres, et puis chacun rentre chez soi après.
Écoute, on n'a pas pu. Je ne veux pas critiquer l'organisation, mais quand tu as ZZ Top, Status Quo, il y avait les Commitments, il y avait, bon, je ne sais plus tous les noms, mais il y a des loges séparées, c'est-à-dire que les petits groupes comme nous à l'époque, sans que ce soit péjoratif, tu n'avais pas vraiment accès aux loges des artistes comme ça qui ne voulaient pas être dérangés, qui avaient leurs trucs séparés. Après, pour revenir sur d'autres artistes que tu as cités, par exemple Bernard Allison, j'ai eu la chance à l'époque de pouvoir jouer avec lui, il est venu faire la jam avec nous, on a échangé, on a joué ensemble une paire de fois dans un endroit dont tu as sûrement dû entendu parler, qui s'appelait le Bariton à l'époque, au Bus de Clignancourt,
oui.
Où jouait Van Wills, qu'on a pu croiser aussi, où jouait Mac L'Écuyer, où jouait tout un tas des déons du blues qui venaient s'y croiser.
Van Wills, qui est un des grands amis de Billy Gibbons, justement, on n'en sort pas, du Texas, effectivement. Ça fait partie, le Texas, plus particulièrement, ça fait partie de tes influences côté blues, côté blues rock, ou est-ce que, quand tu écoutes du blues particulièrement, est-ce que tu vas vers la Californie, vers le Mississippi, vers Chicago, quelles sont tes influences en matière de type de Chicago blues ou de Swamp blues ou de Californian blues?
Ah, écoute, moi tu t'es sûrement dû le voir dans la biographie, c'est vrai que le blues qu'on fait dans Harderly, on l'appelle du white urban blues. Mmh. Je vais t'expliquer pourquoi, mais en fait le white urban blues, parce qu'on est blanc. J'ai pas la chance d'être noir, parce que pour moi quand tu joues du blues et que t'es musicien, avoir du son africain dans les veines, c'est quand même une chance. Donc nous voilà, moi je suis né à Paris, je suis un vrai petit parisien, donc c'est du blues blanc, du blues urbain, parce que j'ai toujours vécu à la ville, à Paris et tout ça, je suis pas né au Mississippi dans les champs de coton, et puis blues parce qu'on fait du blues, donc c'est comme ça que moi je décris la musique qu'on fait. Alors j'ai envie de dire c'est du blues moderne, mais je trouve ça un peu prétentieux, parce que comment moderniser une musique comme le blues qui est là depuis des décennies et qui a été tellement sublimée par tant d'artistes que c'est prétentieux de dire qu'on va moderniser cette musique. Après c'est vrai que tu as raison, je suis vraiment plus inspiré par le blues blanc, le British blues, le blues texan, effectivement, avec plutôt des groupes comme ZZ Top, Stevie Ray, ou alors du Johnny Winter, Hendrix, Clapton, enfin le blues anglais. C'est vrai qu'après, moi, j'aime les trois Kings, j'aime Freddie King, B.B. King, Albert Collins, que j'ai eu la chance de voir sur scène avec Gary Moore. Et puis, ma rapport peut remonter à Robert Johnson, tout ça, je connais bien. Mais honnêtement, il y a plein de gens qui vont jouer ça, ce style-là, bien mieux que moi. Notamment le regretté Patrick Verbeek qui nous a quitté il y a pas si longtemps.
Ouais,
que ça,
tu as raison, ayons une pensée à nouveau pour Patrick Verbeek.
Voilà, c'est juste pour lui rendre un petit hommage parce que c'est intéressant, puis c'est vraiment un bluesman français, voilà, qui je trouve qu'il a été méconnu, mais enfin bon, voilà. Après, il faut trouver aussi sa propre identité, comme tu disais, il faut digérer un petit peu le style de ce que tu as pu travailler quand tu étais jeune, et puis faire quelque chose qui correspond aussi à ton image, à ce que tu es intrinsèquement. Moi, je pense que le blues, comment dire, il faut le vivre au quotidien. C'est-à-dire que c'est pas une musique, tu peux pas faire semblant, quoi. Voilà, c'est, enfin, comme plein de musiques, hein, comme le jazz, comme, voilà. Après, bon, tout ce qui va être variété ou des choses comme ça, tu peux faire tel créneau ou la pop, ça, après, c'est interchangeable. Mais je pense que des musiques roots comme le jazz, la soul, le gospel et tout ça, vraiment, si t'as pas une partie de ton âme qui est, comment dire, vraiment, où c'est ton mode de vie quelque part. En tout cas, moi, je ne peux pas tricher. Voilà, je fais vraiment ce que j'aime, j'aime ce
d'accord,
que je fais.
D'accord.
Et voilà.
Ouais. Mister Harderly, on va poursuivre l'interview dans quelques minutes. Juste le temps d'écouter un deuxième titre. On écoutait tout à l'heure White Flag qui ouvre cet album Mean Blues. On va maintenant entendre Thorn in My Shoe. On se retrouve juste derrière dans Sweet Home Chicago. Voilà, on vient d'entendre Stone in My Shoe, extrait de l'album Mean Blues de Mr. Harderly, toujours au téléphone.
Oui, bien sûr.
Oui, super. On était en train d'évoquer tout à l'heure tes influences, tes goûts musicaux, et puis peut-être aussi, comme je citais tout à l'heure Fred Chapelier, qui était le seul artiste français dans toute cette liste-là, je voulais savoir comment tu te situais en tant que guitariste ou chanteur, ou les deux, par rapport à un garçon comme Fred Chapelier, ou comme d'autres, comme Charlie Faber, par exemple, qui manie la guitare un petit peu de ta manière, c'est-à-dire avec des aspects blues rock très affirmés.
Alors, bah, me situer, voilà, on est tous différents. C'est-à-dire que voilà, Fred, Charlie, ils ont chacun leur style. Moi, j'ai le mien. Après, il n'y a pas de concurrent. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec Fred Chapelier. Enfin, en tout cas, il nous a fait l'honneur de venir jouer sur un titre de notre, pas dernier album, mais de l'album d'avant pour les 10 ans du groupe. Et j'ai eu la chance de partager la scène avec lui pour un concert caritatif. Donc voilà, c'est vraiment un grand monsieur, très gentil, bourré de talent. Après, je sais que Fred, à l'époque, où je te parlais justement du fameux baryton où on jouait, mais ça date d'il y a 20 ans, voire plus, voire 25 ans, tu vois, donc ça ne nous rajeunit pas. Je veux dire qu'au début, Fred et moi, on faisait le même circuit. Et puis, le talent aidant, Fred a une carrière plus étoffée que la mienne. Et c'est tant mieux pour lui, c'est mérité. Il a fait les bonnes rencontres au bon moment.
C'est ce que j'allais te dire. Ouais, c'est aussi c'est pas qu'une question de talent, c'est aussi une question d'opportunité, de rencontre. Effectivement, par exemple, j'ai envie de dire, cette tournée Jacques Dutronc en 2010, ça a été un petit peu le déclencheur d'une autre dimension de sa carrière. Est-ce que c'est le genre de choses qui te fait rêver on a bien compris que tu n'étais pas jaloux, chacun à sa place, tu l'as très bien dit. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu rêverais de vivre, toi aussi? Pourquoi pas être projeté sur des scènes énorme et puis jouer devant des dizaines de milliers de personnes?
Alors, sur une scène énorme, jouer devant des dizaines de milliers de personnes, c'est comme passer à la télé, je m'en fous. Après, même si je sais que commercialement, c'est intéressant pour la carrière et tout ça, le but, c'est pas ça. Après, ce qui est intéressant, c'est de ce que tu dis sur la carrière de Fred, c'est qu'effectivement, pour moi, le déclencheur, c'est pas quand il a joué avec Dutronc, c'est quand il a proposé aux chanteurs de Roy Buchanan, Bill Pollack, de venir chanter un ou deux morceaux de l'album, et finalement il a joué sur tout l'album.
Ouais,
et puis,
ouais,
voilà,
ouais, ouais,
ça
ouais.
L'a amené un peu aussi à une carrière internationale.
C'est vrai.
Et c'est vrai que moi je collabore sur des comment dire des albums d'autres artistes, mais je le fais pour l'instant de manière anonyme parce que je veux pas interférer avec la carrière de Harderly. Et puis je le fais parce que ça me fait plaisir, souvent bénévolement, avec des pseudos, genre Rick Harrison, ou enfin bon,
je sais pas. Ah ouais, tiens, je savais pas ça, d'accord. Ouais.
Non, mais je te le dis, c'est un
pseudo. Pseudo comme Bill Pollack que tu viens de citer, qui s'appelle Billy Price sur la scène, hein, effectivement.
Exact, oui, parce qu'en fait, comme on est amis, c'est comme avec Del Blade, comme on est amis, enfin, encore une fois,
Feu Del Blade, oui.
Ouais, ouais, bon, bref. On était en contact, on avait peut-être des projets, enfin bon, peu importe. Et c'est vrai que Billy Price, voilà, je pense que c'est, voilà, Fred, comme tu dis, il a eu des bonnes rencontres, il a provoqué ces rencontres-là, qui n'enlève rien son talent. C'est vrai que moi, je suis pas très public relation, je suis un peu un ermite, tu vois, où je suis un peu comme Frank Zappa, je suis souvent dans mon studio, je bosse. Et puis après, par contre, je suis ouvert vraiment à toute proposition, à faire plein de choses. Mais voilà, j'ai pas eu les opportunités qui sont présentées. Voilà.
Tout à fait. Mr. Harderly dans Sweet Home Chicago sur le 666 avec cet album Mean Blues. Un album, j'ai cru comprendre que c'était un album qui comptait véritablement dans ta discographie, puis dans ta carrière. À quel niveau et pourquoi?
Écoute, c'est notre cinquième album. Donc le groupe a maintenant, on est en 2021, donc il a 13 ans.
Oui.
Et c'est vrai que l'album d'avant, alors on essaie de faire un album tous les deux ans à peu près. Donc là, il est à 3 ans parce qu'avec le confinement, ça a pris un peu de temps pour voir le sortir dans les bonnes conditions. Mais c'est vrai que depuis le 10e anniversaire du groupe avec notre album précédent qui s'appelle I'm a Bluesman, c'est vrai qu'au niveau média, au niveau programmateur, il y a eu un vrai déclic qui s'est fait. Et je le vois, on a vraiment beaucoup plus de propositions pour des concerts, des propositions pour des interviews sur les radios, des passages en radio, des choses comme ça. Peut-être, je sais pas, est-ce que le style guitaristique a mûri? Est-ce que les compos ont mûri? Je suis mal placé pour en parler, mais voilà, effectivement, les deux derniers albums, et notamment le dernier, là, on a vraiment, vraiment des très, très bons retours. Et je peux pas l'expliquer. Je suis désolé. And take him back in the life that I choose, but the way that I lose is mine. All the things that you made and the words that you said are lies.
Il y a peut-être une piste par rapport à ça, notamment par rapport au thème que tu étudies au fil des morceaux. Il y a 15 morceaux, c'est très très généreux comme album. L'album Mean Blues présente des thèmes comme le suicide, les drogues, les addictions, la destruction de la terre, la maltraitance des femmes. Ce sont des sujets qu'on voit passer sur tous les fils d'actualité. C'est un peu... Tu te poses comme témoin de notre temps, en fait, avec ce disque-là.
Oh, c'est prétentieux de dire ça, encore une fois, mais c'est c'est vrai que dans les deux derniers albums, j'essaie d'assumer des thèmes qui me tiennent à cœur.
L'actualité.
Voilà, alors oui, l'actualité, mais enfin, la maltraitance des femmes, c'est pas d'actualité. Ça fait des années, voire des décennies, malheureusement, que ça existe et qu'on en parle. Donc, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. C'est-à-dire que c'est vrai que les premiers albums, c'était plus des thèmes. Je me suis levé ce matin, ma copine m'a quitté. Enfin, des trucs qui... Enfin, il y a toujours une part de ma vie personnelle dedans. C'est pour ça que je dis qu'on est bluesman ou on ne l'est pas. Mais voilà, on y met toujours quelque chose de personnel.
Comme quoi, il faut jamais se lever le matin, plutôt l'après-midi, finalement.
Ouais, c'est ça, c'est pas faux. Mais c'est vrai que là, dans les deux derniers albums, j'essaie d'aborder, je pensais avoir fait le tour des thèmes un peu récurrents et tout ça, et je voulais avoir des thèmes un peu plus personnels, avec notamment des thèmes à tiroir, parce qu'effectivement, tu as cité la maltraitance des femmes sur le morceau Mistreated, mais c'est en fait un texte à double sens, à tiroir, ce que j'appelle, quand on le lit un peu à double sens, ça parle aussi de la terre, et effectivement des pollueurs qui sont pas condamnés, de même que les hommes qui maltraitent les femmes ne sont rarement condamnés aussi. Enfin, toi, il y a une espèce de parallèle et j'aime bien ces textes à tiroir.
Voilà, en fait, le thème global, ce sont les injustices de notre époque finalement. Tu vas tout globaliser par rapport à tous ces sujets-là, la justice, les inégalités.
C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je veux dire, bon, nous, en tant que musiciens, enfin, je parle pour moi, après, peut-être on a d'autres qui ne seront pas d'accord, mais on n'est pas riche financièrement, on est riche humainement, de par les rencontres qu'on a pu faire, de par la vie qu'on a pu avoir depuis ces décennies, ces 30 années en ce qui me concerne de métier. Mais c'est vrai que l'injustice, je vois que comme il y a des gens qui peuvent habiter, je sais pas, à 500 mètres de chez moi et qui travaillent et puis qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Bon, voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Bon, je veux pas faire non plus tomber dans le pathos ou tout ça, mais voilà, il y a vraiment des thèmes dont j'ai envie de parler. Voilà, j'ai pas envie d'être un leader ou d'être un lanceur d'opinion. C'est juste voilà des choses qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de mettre dans mes textes.
Voilà, on n'est pas du tout dans le côté donneur de leçons en fait, hein, c'est ça.
Non, pas du tout. Hein, c'est pas du tout le sens du truc. C'est d'essayer. Tu sais, il y a un morceau sur notre avant-dernier album qui s'appelle Your Eyes Can See, tes yeux ne peuvent pas voir. Et c'est ce que je dis souvent, c'est une phrase qui m'a été inspirée de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince qui dit
l'essentiel est
qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Pour les yeux, exactement.
Et donc ce morceau est inspiré de ça, et souvent en concert je le présente comme ça, et ma conclusion elle est voilà, essayons d'être bienveillants et de voir avec notre cœur. Et juste être bienveillants les uns avec les autres. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec cette pandémie qui est là, alors que cet album est sorti bien avant que la pandémie soit là. Donc voilà, tu vois, des thèmes qui sont intemporels quelque part. Et voilà, c'est ça que j'essaie de mettre dans mes textes, sans prétention aucune et sans donner des leçons à qui que ce soit. Quoi.
Très bien. Et puis donc, ce sont des compositions, on l'a bien compris, mais tu reprends également deux titres. Je crois que ce n'est pas la première fois que tu reprends un titre de Deep Purple. Là, c'est When a Blind Man Cries. C'est un morceau pas très connu de Deep Purple. Ça fait partie de quelle époque de leur discographie ?
Alors, c'est dans les premiers albums. Alors, je ne peux plus citer l'album, mais c'est début des années 70, je
d'accord,
crois.
D'accord.
Je crois que c'est un morceau qui a été composé par John Lord, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que sur l'album d'avant, on avait repris Lazy, qui est là, du coup, un morceau très connu.
Oui.
Et c'est vrai que j'aime bien aussi.
Lazy, on se souvient de la version Live in Japan en 72, c'était absolument fabuleux. Enfin,
moi j'ai grandi avec ça, quoi. Voilà,
oui,
cet album-là. Et c'est vrai que Deep Purple, voilà, mais comme il y a eu des reprises de Johnny Weaver sur les premiers albums. Et puis c'est vrai que des fois, j'aime bien mettre des morceaux aussi pas très connus. Comme Little by Little, alors j'ai oublié le nom, je sais que Bikin l'a repris sur l'album d'avant.
Ce serait bien Woody Dixon, un truc comme ça, de mémoire. Peut-être Junior Wells, je sais plus.
Junior Wells, c'est ça, voilà. Ouais. Junior Wells. Et là, c'est vrai qu'on a mis un titre de Looney Brooks que j'aime beaucoup, qui est Blue Mood, qui est pas très connu, mais c'est des titres qui me touchent, tu vois, c'est comme When a Blind Man Cries dont tu parlais. Moi, j'ai grandi avec ce genre de titre et j'aimais ça, je savais pas pourquoi j'aimais bien ce titre-là dans l'album de Deep Purple, mais en fait, parce qu'il est très bluesy, il est très très triste, et il parle de quelque chose aussi, d'un thème un peu grave, voilà, sans que ce soit non plus le thème de l'année, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché profondément, voilà, en termes de sentiments et humainement, quoi, voilà.
L'album s'appelle Mean Blues, il est signé de Mr. Adderley, qui joue en trio avec Jean-Philippe Bernot à la basse et Frédéric Turban à la batterie. Il y a un saxophoniste invité qui s'appelle Greg Delétang. Il n'y a pas d'autres invités. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que tu voulais vraiment que l'album ressemble à ce que vous donnez sur scène ?
Oui, alors souvent, c'est vrai que faire des albums avec beaucoup d'invités, si tu ne peux pas les avoir sur scène quand tu joues, c'est un peu compliqué. Ou alors, il faut que ce soit clair dès le départ. Donc, c'est vrai que souvent, j'ai tendance essayer d'avoir sur l'album les musiciens avec qui je vais tourner sur scène. Il y a toujours un ou deux invités, alors au gré des détours, des gens disponibles. C'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup d'invités parce qu'avec le confinement, c'était un peu compliqué de se voir, de pouvoir se rencontrer. Donc voilà, et puis c'est vrai que voilà, j'essaie d'être honnête par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on écoute l'album et qu'on nous voit sur scène, généralement, les gens sont même agréablement surpris parce qu'il y a beaucoup plus d'énergie sur scène, ce qui est normal avec l'adrénaline, par rapport à l'album. Et mais c'est quand même assez cohérent, c'est-à-dire j'essaie de faire des morceaux dans leur globalité que l'on peut rejouer nous sur scène et non pas des morceaux avec 5 ou 6 guitares, avec des cuivres, des trucs où finalement on va revenir. Enfin, il peut y avoir une exception hein, où il y a un morceau effectivement, comme tu l'as cité, Stone in My Shoe, où il y a Greg qui vient nous faire des parties de sax et tout. Mais bon, voilà, ce morceau-là on ne joue pas sur scène, donc c'est pas gênant, à mon grand regret malheureusement, mais voilà, on ne joue pas sur scène.
Alors justement. Déjouer la carte des invités. Je sais que l'album vient de sortir, t'es peut-être pas encore la tête dans le guidon pour le prochain, mais admettons 2022-2023, tu sors un nouvel album studio, j'entends bien. C'est une question que je pose de temps à autre à certains invités, mais j'aimerais bien avoir ta réponse à toi. Quels sont les artistes, allez, on va en citer trois, que tu adorerais invité sur ton album, sachant qu'on est dans le fantasme, on est dans le rêve et il n'est pas question de finances.
Bah écoute, je t'aurais cité Fred Chapelier, mais c'est déjà fait. Donc
oui,
on va pas. Mais ça... Rien n'empêche qu'il revienne, ce sera avec grand plaisir.
Ah, on peut rêver deux fois des mêmes choses, on est bien d'accord, effectivement.
Voilà, mais bon, on va le mettre un peu de côté. Voilà. Après, s'il y avait vraiment des artistes que j'aimerais bien inviter sur l'album pour un featuring, comme disent les jeunes,
yes.
Bah, j'adore Paul Personne, par exemple. Ah, voilà, tu vois, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose avec Paul. Après. Comme ça, c'est les premiers noms qui me viennent. Hein. Peut-être Manu Lanvin, parce que je trouve que dans la nouvelle génération du blues, enfin, dont on fait partie aussi, hein, je ne me considère pas encore comme un vieux, bien que je sois un petit peu plus âgé que lui. Mais voilà, je trouve qu'il donne aussi un renouveau au style qui est intéressant. Après, je ne sais pas, Bonifield, par exemple, à trompette pour changer d'instrument, pas que des guitaristes, par
d'accord.
exemple. J'adore aussi ce qu'il fait, mais là, on parle juste de musiciens français. Voilà, après, si on parle de musiciens internationaux, là, après.
Bonifield, étant américain pur jus, effectivement, même s'il vit en France depuis des années. Mais
bah, bon, il joue beaucoup en France, voilà.
Ah oui, on l'assimile à la scène française, tout comme Neil Black et quelques autres.
Bien sûr.
Tout à fait. Et puis, allons-y, continuons à rêver sur la scène américaine, par exemple.
Oh, bah là. Jeff Beck, hein, bien sûr. Si j'arrive à le sortir de ses forfaits 34, j'aimerais bien l'avoir. Quoi. J'ai failli le croiser, mais bon, j'ai jamais osé aller le brancher, lui envoyer des albums pour lui demander. Bon, après Eric Clapton, bien sûr. Après, on va parler des vivants, hein, parce que les morts, il y en a beaucoup, mais voilà. Mais entre autres, Clapton, Jeff Beck, Joe Bonamassa, par exemple. Voilà.
D'accord, là, très bien, donc essentiellement effectivement des guitaristes avec qui tu adorerais croiser le fer, c'est chose possible quand on fait des bœufs. Est-ce que tu fais partie des artistes qui aiment partager la scène, que ce soit en tant que groupe principal qui invite d'autres ou toi en tant qu'invité sur d'autres scènes? Tu fais partie de ces gens-là qui aiment un petit peu s'affronter, on va dire, et puis se défier gentiment?
Alors oui, sachant que à chaque fois que je le fais dans un sens ou dans l'autre, comme tu l'as dit, pour moi c'est pas un affrontement, c'est un partage. C'est-à-dire que il n'y a pas de concours. C'est-à-dire quand j'ai eu la chance de partager la scène avec Fred Chapelier, il n'y avait pas de concours parce que Fred Chapelier restera toujours Fred Chapelier. Moi, je ne serai que Mr. Harderly. Mais on a vraiment pris un plaisir à échanger des solos de guitare et tout ça, à se marrer, à faire le truc. Donc après, inviter des gens sur scène avec nous, dès que je peux le faire, je le fais. Que ce soit des potes ou qu'on joue grande scène ou petite scène, quand il y a des potes qui sont dans le coin, c'est toujours avec grand plaisir. Et souvent, quand on a un groupe qui ouvre pour nous, sur un festival ou voilà, bon, je vais pas citer de nom de groupe, mais à chaque fois, il y a plein de gens qui pourront en témoigner. Ah, tu viens, bah écoute, nous on joue après vous, sur les derniers morceaux, tu viens nous faire un peu de guitare, un peu d'harmonica, tu viens chanter, enfin, selon qui est la vedette, si c'est un harmoniciste, une chanteuse, un chanteur. Pour moi, la musique, c'est un partage, donc voilà. Mmh. Après, aller jouer avec les autres, toujours avec grand plaisir. Après, il faut avoir les propositions et c'est vrai que c'est plus compliqué parce que des artistes, bon, comme qu'on a pu citer, ils ont leur carrière, ils ont voilà. Puis c'est vrai quand ils ont un invité, c'est quelqu'un qui va venir jouer 3-4 morceaux et puis c'est C'est quelque chose de plus installé, c'est ouais. pas genre voilà, moi je te dis, je suis un peu enfermé dans ma grotte, donc je suis pas public relation, aller traîner dans les jam sessions, on va dire parisiennes,
bah oui, mais
pour aller faire des relations et...
D'accord, mais ce qui ne t'empêche pas d'avoir un site internet très bien fait, ce qui ne t'empêche pas de répondre de façon magnifique aux questions que je te pose, parce que voilà, c'est toujours très clair, très précis et très, très développé. Moi je trouve que voilà, tu peut-être dans ta grotte, mais à la limite tu dois en sortir relativement souvent, surtout pour proposer cette album qui s'appelle Mean Blues, qu'on va rappeler, qui est dédicacé à la mémoire de pas mal de gens que tu as cités tout à l'heure, et alors des musiciens comme Hendrix, comme Edward Van Halen, Stevie Ray Vaughan, des musiciens qui nous ont quittés, Lemmy qui est Mister de Motorhead bien sûr,
ouais.
Mais je note aussi un nom d'un non-musicien à qui tu dédicaces, un écrivain qui s'appelle Frédéric Dard. Pourquoi?
Ouais, San Antonio. Ah, parce que j'adore sa philosophie, il fait, tu sais, tous les gens. J'ai fait une interview il y a quelques mois pour une radio concurrente. Enfin bon, on va pas la citer.
Non, mais tu vois, c'est comme les guitaristes. Il n'y a pas de concurrence à Radio 666, vraiment. Hein.
Non, bah, c'était sur Radio Stoliac pour la route voilà. du 12 avec Edmond Mathieu, voilà, qui avait, comme toi, une interview vraiment très bien préparée avec des questions vraiment intéressantes. Et il posait la même question, mais bon, hormis des gens connus, il avait deux autres questions. Pourquoi des gens inconnus et pourquoi Frédéric Dard? Donc je vais répondre à ta question. Frédéric Dard, parce que j'adore ce bonhomme, déjà humainement. Il fait partie pour moi des Lino Ventura, Jean Gabin, tout ça, de la vieille école. J'aime sa philosophie, c'est-à-dire hormis le côté roman policier, qui est un petit peu un prétexte, et hormis ce qu'on peut lui reprocher, des descriptions un peu sexuelles dans ses bouquins, bon, qui n'est pas très intéressante, c'est pas ça. Mais il a une vraie philosophie, ce bonhomme. Et quand tu l'écoutes, quand tu lis entre les lignes et que tu l'écoutes, pour moi, ma littérature, ça va être Saint-Exupéry, Frédéric Dard. Bon, après, on peut fouiller un peu Céline, tout ça, bon, hormis son côté... antisémite, mais ben voilà, des gens de talent avec vraiment des philosophies intéressantes qui
amusent.
Voilà, c'est mais vraiment ce mec-là me manque, quoi. Il me manque vraiment, quoi. Parce que il met des côtés dans la fourmilière, et puis il dit ce qu'il a à dire, comme le faisait Gabin, comme le faisait Ventura, comme le faisait Blier, comme voilà, comme cette génération d'artistes. Après, on peut remonter plus loin avec des comédiens, Michel Simon. Enfin bon, voilà, on va pas faire les vieux cons non plus. Hein, mais...
Mr. Harderly dans Sweet Home Chicago avec cet album Mean Blues. On va en écouter un nouvel extrait tout à l'heure, avant la fin de cette interview. Rappelez quand même qu'on peut retrouver toutes tes infos sur harderly.com. Ça s'écrit harderly.com. Il y a absolument tout, et puis les dates de concert, je pense qu'on peut aller consulter tout ça sans aucun souci. Les prochaines dates, ce sera pour le mois de novembre, Villabé, Gron, Argenteuil, Sens, Paris, Rosny-sur-Seine, Château-Thierry, voilà, ça va continuer à grossir, parce que maintenant, ça y est, le déconfinement est largement enclenché. Comment est-ce que tu as vécu cette période noire de 18 mois sans pouvoir véritablement travailler ni proposer ta musique à un vrai public?
Alors, en deux mots, le premier confinement, c'était plutôt sympa, parce que c'était un temps, il faisait beau, j'ai la chance d'habiter dans une maison où j'ai mon studio d'enregistrement et tout, avec un petit jardin, donc c'est allé. C'est vrai qu'après, les deux autres confinements suivants étaient un peu compliqués. Après, la chance qu'on avait, nous, en tant que musiciens professionnels, c'est qu'on pouvait continuer à travailler, non pas faire des concerts, mais comme on était en préparation de l'album, on pouvait répéter, on pouvait enregistrer, parce que c'était autorisé par l'Assemblée nationale, pour préparer les futurs spectacles et tout ça. Donc en fait, on a pu prendre le temps d'enregistrer cet album, de le peaufiner, de pouvoir travailler en plus avec Internet, avec des photographes, avec l'infographiste pour la pochette. Enfin bon, je ne sais pas les détails de la promo, mais on ne s'est pas vraiment arrêté de travailler.
D'accord,
on a pu faire aussi, tu as pu le voir aussi, des vidéos dans le studio de nouveaux morceaux de l'album pour rester en contact avec le public. Donc on ne s'est pas vraiment arrêté de travailler, en fait, quoi. Même s'il n'y avait pas de concert, ça nous a manqué. Voilà.
Très bien. On peut retrouver Mr. Harderly sur cet album, Mean Blues. On peut le retrouver en live, je vous l'ai dit, et puis également sur le net. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour les mois, les années à venir, dis-moi, avant qu'on se reparle à nouveau au téléphone pour le prochain album, peut-être?
Bah, avec grand plaisir, en tout cas.
Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter,
écoute,
d'ici là?
La santé, le succès.
Très bien.
Dans cet ordre-là.
Ce sera le mot de la fin. Merci à toi d'avoir répondu.
Merci Marc,
à toutes ces questions.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
Merci.
Au revoir. Mr. Harderly en continu avec un nouveau titre, extrait de l'album Mean Blues. C'est le titre album Mean Blues. We'll be right back.
Un nouvel instrumental, Mean Blues, titre album, ce disque de Mr. Harderly. Merci encore pour cette interview. On termine avec un dernier extrait du même album. Ça s'appelle What the Hell is Going On, Mr. Harderly. What the Hell is Going On, extrait de l'album Mean Blues de Mr. Harderly, qui était l'invité de ce 1121e Sweet Home Chicago. Et grâce à lui, on va pouvoir se replonger encore dans quelques-unes de ses influences. Et avec plaisir et délectation, en ce qui me concerne, en tous les cas, j'espère pour vous aussi, l'album de 1971. Vous savez, la rubrique 50 Years After, c'est Johnny Winter en live avec Good Morning Little School Girl. We'll be right back. Voilà, on était en live en 1971 avec la magie de la radio. On va se retrouver en live en 1972 avec l'un des artistes et des groupes cités par Mr. Adderley dans son interview aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà reconnu, tiens, juste un petit riff comme ça. C'est un titre introduit par un certain John Lord, clavier, comme on peut l'entendre derrière. Et puis surtout ben, ça fait partie d'un double album mythique, Live in Japan. Nous sommes en 1972 et c'est Deep Purple qui va nous interpréter Lazy. Ce sera le tout dernier titre pour ce 1121e Sweet Home Chicago. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut, bye bye.
Thank you.